Voici donc mon exposé de décembre, juste avant Noël. Je vais essayer de parler de la justification. Ça tombe très bien au moment où on discute de l'histoire d'avortement. La justification est une question difficile s'il en est. Elle fut l'objet de toute une session du Concile de Trente en 1546, les décrets n'étant rendus qu'en janvier 1547. Le Concile, lui, reprit à Trente, 50 ans plus tard, en 1551-52 et en 1562-63. La discussion était si vive que, relate l'abbé Yvelin, un évêque saisit un de ses collègues par la barbe et ne le quitta qu'avec deux poignées de poils en main. Parmi les suites du péché originel, les principales furent la perte de l'immortalité et de l'intégrité, c'est-à-dire de l'unité de la volonté. Avant la chute, l'homme ne connaissait pas les quatre consciences, sa volonté étant naturellement soumise à son intelligence. L'homme avait été créé pour une fin surnaturelle, avec des moyens adéquats. Un but ignoré de notre siècle, encrassé dans un matérialisme absolu. Dieu est systématiquement absent des médias. Le surnaturel est banni. Tout idéal surnaturel est rejeté. Il n'existe que le matériel sous la férule de l'argent, ce maître qui empêche de servir Dieu. Les valeurs proclamées sont une liberté qui est celle du mensonge et du blasphème. Une égalité qui accorde les mêmes avantages à celui qui travaille bien, à celui qui travaille mal et à celui qui ne travaille pas du tout. Une fraternité tissue de mensonges, de calomnies et d'injures. Où sont les récits à l'éloge des grandes figures de jadis, de Clovis à Mermoz et Guilmer à Saint-Louis, Sainte-Bernadette, etc. Rappelons que l'âme qui sert le mieux le monde est celle qui plaît à Dieu et intercède pour sa grâce. À la suite du péché originel, Adam ne met au monde que des créatures ne pouvant conquérir par elles-mêmes l'état perdu. Toute seule, la loi mosaïque est impuissante à faire rentrer l'humanité dans l'état surnaturel dont elle est déchue. Saint Paul, dans son Épître aux Hébreux, insiste sur l'impuissance des lois cérémonielles et des lois mosaïques à faire rentrer l'humanité dans la vie de la grâce. Il oppose aux sacrifices anciens celui de la croix, par lequel s'est affectée la réconciliation, le retour à l'état de grâce dont le péché originel nous a fait déchoir. Le monde voyait dans le Christ un maître, voire un législateur, qui règle les actions intérieures de l'âme afin de les mener à la perfection. Mais il est bien davantage. Le Christ est le Sauveur venu nous rétablir dans notre vie divine. Nous ne sommes plus ses serviteurs, encore moins ses esclaves, mais ses amis. Il nous communique sa vie grâce à l'Eucharistie, une nourriture en proportion de la vie qu'elle doit entretenir. Le Christ présent en nous est le principe de toute vie surnaturelle. Saint Jean rapporte la belle parole de Jésus « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Que demeure en moi et moi en lui ?» Qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits. Notre union avec le Christ est intime. Nous vivons de la même sève. Nous ne remercierons jamais notre Père de cette grâce. Saint Paul dit aux Romains, justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par Jésus-Christ qui nous a permis d'accéder à cette grâce et de nous glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est dans le 5e chapitre de l'Épître aux Romains. Le péché a répandu la corruption dans l'humanité. Mais la justice du Christ nous a régénérés et mis en nous l'état de grâce, celui d'une âme régénérée par le baptême et entretenue par les sacrements. Cet état est semblable à une lumière qui, il est vrai, n'a pas la même force chez tous. Toutefois, même en état de grâce, l'homme porte toujours son ennemi en lui, car il n'est pas juste dans le détail. Le juste pêche 7 fois par jour, sans cesser d'être juste. C'est toute l'histoire de la concupiscence qui peut salir même une bonne action. La justification est le passage de l'état de fils d'Adam à celui de fils adoptif de Dieu. Par le baptême, nous sommes délivrés de la mort spirituelle, nous devenons fils de Dieu, une nouvelle naissance. Cela avait été annoncé par Isaïe dans son premier chapitre. Quand votre âme serait plus rouge que la pourpre, la plus foncée, dit le Seigneur, je la rendrai plus blanche que la neige. En quelque sorte, le baptême concrétise et rend officielle cette grâce. Luther dit que le péché demeure. Il le confond avec la tentation, la concupiscence. Dieu ne hait pas la tentation, sauf si nous y succombons. Le péché sera détruit et nos âmes purifiées. Dieu ne saurait bénir et donner le nom de fils à un sépulcre blanchi. La confession permet une excellente lessive. Pour les protestants, nous devenons justes par la simple justice du Christ. Mais pour les catholiques, nous sommes aptes à devenir justes avec le Christ régénérateur par les mérites de son sang. Comme saint Paul le dit, l'homme sort renouvelé, vivifié, régénéré, ressuscité par le baptême et par la pénitence. Premier épître aux Corinthiens. L'âme régénérée est celle où Dieu met un peu de sa vie, de sa beauté et de sa bonté. L'âme régénérée est une fille qui porte la ressemblance de son Père, devenant avec sa grâce de plus en plus semblable à lui. La lumière qui est la grâce de Dieu pénètre l'âme comme la lumière le fait d'un cristal, le dilatant et l'échauffant. Sainte Thérèse et Sainte Catherine ajoutent que l'état de grâce nous donne une grâce d'intercession. C'est la communion des saints. Mais nous devons garder en mémoire que Dieu ne nous sauve pas sans nous. Si nous nous tournons vers lui, il se tournera vers nous. L'âme n'est pas dans un état passif. La foi est essentielle, mais le Christ l'a dit dans saint Matthieu, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. L'importance des cieux est soulignée dans l'épître de saint Jacques. C'est l'importance des actes est soulignée dans l'épître de saint Jacques. Citons son premier chapitre. Mettez la parole en application. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait une illusion, car écouter la parole sans la mettre en application, c'est ressembler à un homme qui se regarde dans la glace et qui aussitôt après s'en va en oubliant de quoi il avait l'air. La manière pure et irréprochable de pratiquer la religion est de venir en aide aux orphelins et aux veuves et de se garder propre au milieu du monde. Citons aussi de saint Jacques, soyez prêts à écouter, prêts à parler, lents à parler, lents à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas ce que Dieu attend du juste. Et citons maintenant dans le chapitre 2, mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi alors qu'il n'agit pas, à quoi cela sert-il? Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu as raison, les démons aussi le croient, et ils tremblent. Puis prenons Abraham par exemple, l'homme devient juste à cause de ses actes et non pas seulement par sa foi. De même, le corps qui ne respire plus est mort. Toi qui n'agis plus est mort. On comprend que Luther ait rangé saint Jacques et rayé saint Jacques de la liste des écrits qu'il jugeait inspirés. Ce n'est pas notre cas, car nous savons que Dieu accueille ses œuvres, accueille nos œuvres, si infimes soient-elles, au regard de sa majesté. Nous savons avec quelle joie et affection la mère reçoit le dessin que son enfant a fait pour la fête des mères. Certes, ce gribouillage n'a rien de comparable au chef-d'œuvre des musées, du moins techniquement, mais sa valeur affective est incomparable. Parlant des enfants, le Seigneur a dit « Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entre pas. » N'ayons pas peur des petites actions enfantines, mais grandes aux yeux de notre Maître, qui lui aussi fut un petit enfant, comme nous le rappelle Noël qui approche. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année.